Bonsoir, une décennie de souvenirs célébrés au Locle. Hier, la librairie coopérative au Montpassant a fêté ses 10 ans. À cette occasion, le café et la tailleule étaient offertes aux passants et sur le coup de 10 heures, une quinzaine de personnes s'étaient réunies. Parmi les curieux, les habitués et les bénévoles, anciens ou actuels, deux figures fondatrices évoquaient ensemble leurs souvenirs. Isabelle Zünd et André Fruchti ont raconté la genèse de leur projet un peu fou. On écoute à ce propos Cléa Robert.
On était quand même un peu inconscient à l'époque. C'est avec humour qu'Isabelle Zünd et son comparse André Fruchti racontent la genèse de la librairie au Maupassant du Locle. Au départ, Isabelle rêve de voir une librairie dans la mère commune et André veut fonder une coopérative. Après quelques discussions, c'est décidé, les deux amis unissent leurs forces pour monter ce projet un peu fou. C'est vrai qu'il y a 10 ans, la situation économique n'était pas vraiment en faveur de la création d'une librairie indépendante. Premièrement, le commerce en ligne explosait. En quelques clics et pour des prix très modestes, chacun peut commander soi-même des bouquins directement depuis la maison. D'ajouter à cela la proximité géographique du Locle avec la France qui bénéficie de prix plus avantageux sur les livres. Et pourtant, ça marche. En 6 mois, Isabelle et André arrivent à récolter 80 000 francs auprès d'une centaine de coopérateurs et avec ça, un local dans un état terrible, se souvient Isabelle. Avec l'aide d'amis, l'intérieur est vite retapé et peut accueillir les premiers mobiliers. C'est là qu'Odile Grange, libraire, fait son entrée dans le trio fondateur. Grâce à son expérience, la librairie acquiert un fonds, c'est-à-dire le stock initial de livres.
Et le 15 août 2015, la librairie ouvre donc officiellement ses portes et n'a jamais cessé de fonctionner depuis. On retrouve Cléa Robert.
Parmi tous les souvenirs évoqués par Isabelle et André samedi matin, celui des années Covid a particulièrement marqué l'enseigne. Les librairies étant considérées comme non essentielles, celle du Locle avait dû fermer ses portes. Pourtant, comme le relève Isabelle, la librairie n'a jamais autant bien marché qu'à cette période de confinement. L'établissement prenait des commandes et les livrait gratuitement à sa clientèle dans tout le canton. Isabelle Zünd parle d'une période chargée, mais quand même un peu vide. Quand le contact avec les clients n'est plus là, le travail perd un peu de sa saveur.
Et malgré ces années difficiles, la librairie a su garder la tête hors de l'eau et fidéliser sa clientèle, notamment grâce à ses animations.
Isabelle et André ont réussi à faire de cette librairie un lieu d'échange et de rencontre chéri des habitants du Locle. Parmi les moments les plus marquants, la fondatrice se rappelle de la venue de l'écrivain Joël Dicker pour une dédicace seulement 4 mois après l'ouverture du lieu. Une queue de plusieurs centaines de personnes attendait devant la librairie. Finalement, la venue de l'ancien conseiller fédéral Didier Burkhalter a aussi marqué les esprits de l'équipe. Il avait choisi la librairie du Locle pour le vernissage de son premier bouquin.
Un sujet à retrouver dans son intégralité sur rtn.ch. Le musée Jean-Jacques Rousseau à moitié se vide de ses collections. Celles-ci ont été transportées hier à Espaceval, à Couvet. Il s'agit de les mettre à l'abri le temps pour les CAP, propriétaires des murs, de réaménager une partie de la bâtisse en chambre d'hôte. Les collections devraient être réintégrer le musée à l'été 2027. Coup de neuf pour les panneaux bordant la promenade du temps passé à la Brévine. Inaugurés il y a 10 ans, les panneaux avaient besoin d'une mise à jour. Des codes QR menant à des vidéos mêlant archives et prises de vues actuelles y figurent désormais. Cette nouveauté a été inaugurée hier par la Société d'embellissement de la Brévigne. Hors de notre région, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, a affirmé aujourd'hui que l'armée israélienne avait ouvert le feu sur ses membres dans le sud du pays. De son côté, Israël a assuré ne pas avoir visé les casques bleus délibérément. La FINUL œuvre avec l'armée libanaise à l'application de l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin le 27 novembre de l'an dernier à plus d'un an de conflit, dont 2 mois de guerre ouverte entre le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël. La Maison-Blanche relève sur son site internet que la déclaration d'intention négociée avec la Suisse sur les droits de douane jette les bases d'un accord historique. Celui-ci ouvrira un accès sans précédent au marché suisse pour les exportateurs de produits américains tels que l'agriculture, les machines, les dispositifs médicaux, l'aérospatial et l'énergie. L'accord doit être finalisé rapidement, précise la présidence américaine, avec une ratification prévue pour début 2026. Et puis, c'est dans le petit village de Tartenien, le bien nommé, sur la côte vaudoise, que s'est déroulée la 5e édition du Mondial de la fondue. Elle a réuni près de 200 participants hier, dont des concurrents du Canada et du Brésil. Selon le règlement, la fondue devait contenir au minimum la moitié du gruyère AOP. Et pour la petite histoire, c'est Bénédicte Wüttrich, maître fromager exploitant de la fromagerie éponyme à Écoteaux, qui l'emportait chez les professionnels.
RTN, il est 18h05. RTL Sport.
Le HCC dispute actuellement sa troisième rencontre en l'espace de 5 jours. Le club de hockey sur glace affronte à nouveau Coire dans les Grisons après avoir battu cette formation en coupe vendredi. Ce duel a débuté à 16h30. Vincent Costet a traversé la Suisse pour nous. Il nous raconte les péripéties de ce match. Alors Vincent, c'était quitté au terme du deuxième tiers-temps sur le score de 3-2 en faveur de la formation de Louis Matt. Où en est-on actuellement? Je crois que le troisième tiers n'a pas encore tout à fait débuté.
Ouais, ce sera le cas, Marcel, d'ici quelques secondes. La question du soir, c'est un peu de savoir si le HCC confirme son retour en forme. Là, pour l'instant, j'ai envie de répondre non, Marcel. Alors c'est vrai, le HCC mène 3-2, mais le HCC est globalement dominé après 40 minutes de jeu contre une équipe, certes, qui est bien organisée, qui a beaucoup d'énergie. Hein. On sait que Reto von Arx, l'entraîneur, est un ancien super joueur et qui avait une grosse éthique de travail, et finalement son équipe, elle est un peu à l'image de Reto von Arx. C'est une grande travailleuse, mais elle manque quand même pas mal de talent face au HCC. Elle est aussi très indisciplinée, et les Chaudefoniers ont pu en profiter. Ils ont, par quelques actions de classe, réussi à être devant leur adversaire après 40 minutes de jeu, mais c'est un score de 3-2 qui n'est pas un garant d'un succès ce soir. Il reste 20 minutes à faire et les Chaudefoniers vont devoir être beaucoup plus réguliers dans le troisième tiers s'ils entendent finir avec les 3 points ce soir. C'est tout le mal qu'on souhaite aux hommes de Louis Matt de finalement, sur le plan comptable, réaliser une semaine grisonne parfaite avec une qualification en demi-finale de la Coupe de Suisse et 2 victoires en championnat, mais on en est encore loin.
Vincent, merci beaucoup. On vous retrouvera donc après la météo pour nous raconter ce troisième tiers-temps du HC La Chaux-de-Fonds. Et puis sur les autres patinoires de Swiss League, cet après-midi, aucune rencontre n'est terminée. Turgovie mène contre les Gezeka Lions 2-1. Sierre s'impose à Bellinzon 5-1. C'est 0 partout entre Arosa Holton. Viège domine Winterthur 1-0. En National League, Davos bat pour l'instant Zoug 4-1. C'est 1 partout entre les Zurich Lions et Lausanne. Union Neuchâtel a ridiculisé Massagno au Tessin Swiss Basketball League cet après-midi. Les unionistes sont en effet imposés sur le score de 95-53. Ils fêtent ainsi leur premier succès de la saison à domicile, le 4e en 8 matchs. Et surtout, ce résultat leur permet de faire un bond au classement et de boucler le premier tour du championnat au 4e rang, synonyme de qualification pour la SBL Cup. En quart de finale de cette compétition, Union Neuchâtel recevra ainsi Puy Lausanne dans un match qui sera programmé mi-décembre. Les skieurs suisses n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu lors du premier slalom de la saison aujourd'hui à Lévis. La victoire est revenue au Brésilien d'origine norvégienne, Lucas Pinheiro Broughton, devant le Français Clément Noël et le régional de l'étape, Edouard Alberg. Le Finlandais offre à son pays son premier podium dans le cadre de la Coupe du Monde depuis 2013. C'est en revanche une première dans le camp suisse depuis 32 slaloms. Aucun skieur helvétique ne figure dans le top 10. Le meilleur d'entre eux, Loïc Meillard, le Valaisan d'origine neuchâteloise, se classe 14e. Il peinait à expliquer ce qui n'avait pas marché.
Le ski en lui-même, c'était pas mauvais, je me sentais pas mal dessus. Et voilà, le sentiment était de loin pas mauvais, mais voilà, c'était pas ce qu'il fallait aujourd'hui. Il y a quelque chose dans le rythme que je mettais moi, je pense, et la façon que je skiais qui était un peu fausse.
Mais c'est quelque chose qu'on peut régler d'ici la semaine prochaine à Gourgal.
J'espère. En tout cas, de toute façon, voilà, pour l'instant, je sais pas exactement pourquoi ça n'a pas été comme souhaité. Après, c'est voilà, la semaine prochaine, je pense, sera une neige différente, des parcours différents, et donc il faudra repartir à zéro et remettre l'ouvrage sur le métier et continuer à.
Qui a remporté le dernier Grand Prix moto de la saison en MotoGP sur le circuit de Valence. Il a devancé son camarade d'écurie, l'Espagnol Raúl Fernández. La marque Aprilia a ainsi signé son premier doublé depuis 2 ans. L'équipe de Suisse de football s'est envolée aux environs de 16h pour Pristina sans aucune pression dans ses valises. Après avoir battu la Suède 4-1 hier, elle est assurée de participer au prochain mondial. Ceci sauf cataplisme, une défaite par 6 buts d'écart ou plus mardi au Kosovo. La victoire a ainsi été célébrée presque comme une qualification hier à Genève. Et un joueur avait un sourire radieux à la fin de la rencontre, Christian Fasnacht. Le milieu de terrain de 32 ans est entré en jeu en toute fin de partie, disputant ses premières minutes en rouge et blanc depuis le 28 mars 2023. Il a savouré.
Cette convocation a été pour moi une réelle surprise. J'ai bien joué ces dernières semaines, voire ces derniers mois, mais je suis réaliste, je sais que je suis ici pour jouer seulement quelques minutes, aider l'équipe, mais je suis très content d'avoir pu avoir du temps de jeu aujourd'hui.
Christian Fasnacht avait disputé l'Euro 2020 sous les ordres de Vladimir Petkovic. En 20 sélections depuis 7 ans, il a vu passer bon nombre de joueurs. Mais est-il actuellement dans la meilleure natie qu'il ait connue? On écoute Christian Fasnacht.
C'est difficile à dire, je pense que c'est différent. Je dirais qu'aujourd'hui c'est plus dynamique. Avant il y avait des joueurs sur le terrain qui savaient exactement quel rôle ils devaient jouer. Aujourd'hui il y a plus de place à la créativité.
Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial auprès de l'équipe de Suisse de football, Thierry Nicolet. Le Portugal a pour sa part composté sa qualification pour le Mondial après avoir écrasé l'Arménie 9-1 cet après-midi. Dans le même groupe, l'Irlande a assuré sa place de barragiste en s'imposant 3-2 contre et aux dépens de la Hongrie. Et puis enfin, le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Cofrane n'ont pas joué aujourd'hui en Première Ligue, toujours de football. Le club du Val-de-Ru devait recevoir Nanterre alors que le FCC était attendu par les espoirs de Servette. Ces deux rencontres ont été renvoyées en raison de terrains jugés impraticables.